Le Salon des maires et des collectivités locales du 18 au 20 novembre 2025 à Paris Expo, Porte de Versailles, en partenariat avec Procivis et IDPRO sur Radio Immo et Radio Territoria.
Bonjour, bienvenue sur Radio Immo et Radio Territoria. On est ravis de vous retrouver en direct du Salon des maires et des collectivités locales pour cette troisième journée. On vous fait vivre le salon. Donc là, on en est au troisième et dernier jour. J'ai le plaisir, justement, d'aborder un sujet crucial maintenant. C'est vrai, il est central pour les élus et pour les habitants de nos territoires, la production de logements abordables. Et le timing est crucial, il faut le dire. Nous sommes au cœur d'une crise majeure du logement avec une demande sociale qui explose d'un côté et une construction qui décroche de l'autre. Pour décrypter justement cette équation complexe, j'ai le grand plaisir de recevoir Valérie Fournier. Bonjour.
Bonjour Marie-Lise.
Vous êtes la présidente de la Fédération des entreprises sociales pour l'habitat. Alors, les ESH, pour ceux qui ne connaissent pas, pour nos auditeurs, c'est environ 180 organismes, c'est ça, hein, 2,5 millions de logements locatifs gérés et 10 milliards d'euros investis chaque année. Alors, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette fédération, nous la présenter brièvement et puis nous donner les chiffres? On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, les chiffres de l'année 2024 concernant la construction de logements.
Exactement. Alors effectivement, nous avons un peu plus de, je crois maintenant, 170 adhérents. Ils sont répartis sur l'ensemble des territoires, bien évidemment, je dirais, en région, mais également, nous sommes présents dans l'ensemble des territoires ultramarins, qui est et ce que nous revendiquons, donc d'être des deux côtés de la totalité des océans. La fédération, bien évidemment, elle est là pour faire plusieurs choses. Elle assure le contrôle financier, l'appui financier à ses membres. Elle assure bien évidemment la gestion de leur branche, hein, puisque nous avons un grand nombre de salariés bien évidemment au service de nos habitants. Et puis elle assure aussi des actions de lobbying, tout ça dans un mouvement HLM beaucoup plus vaste, hein, puisque nous sommes une des familles du mouvement HLM.
Et alors justement, votre famille HLM est historiquement l'une des plus dynamiques en matière de construction. Bon, pourtant, je l'ai dit, on assiste aujourd'hui à une chute nationale spectaculaire, hein, des mises en chantier, alors qu'en même temps, la demande de logements, notamment social, explose. C'est des records, hein, qui sont atteints. Quels sont les derniers chiffres, vos derniers chiffres, les derniers chiffres de la Fédération concernant la production justement de logements en 2024-2025?
Alors en 2025, les ESH sont restés extrêmement engagés en termes de production neuve, mais aussi de réhabilitation. On est encore en progression des années précédentes, alors même qu'elles étaient des années records, puisque nous avons déposé, enfin nous projetons d'avoir déposé d'ici la fin de l'année en agrément plus de 55 000 logements sociaux, auxquels hors reconstruction en rue, si on y rajoute l'ANRU, sur lequel cette année on est particulièrement dynamique par ailleurs, reconstitution de l'offre en rue, nous sommes à plus de 61 000 logements sociaux produits, ce qui fait donc plus de deux tiers. Et par ailleurs, historiquement et de manière générale, nous avons toujours eu considéré que le logement abordable couvrait une part de logement intermédiaire, justement pour faire un parcours résidentiel. Et donc sur ce parcours résidentiel, on est encore cette année en LLI cette fois-ci à plus de 14 000 logements. C'est un peu moins que l'année précédente sur le LLI, tout simplement parce que l'année précédente, on avait eu des appels à manifestation d'intérêt justement du fait de la crise de la promotion immobilière pour racheter des opérations et soutenir bien évidemment le monde des promoteurs. Parce que comme on le dit aussi, le logement... Certes, nous sommes des opérateurs de logement social, mais la colonne du logement, elle doit intervenir sur l'ensemble de la gamme et on a besoin de tous les types de logements. Donc c'est pour ça que nous travaillons efficacement sur l'ensemble de la colonne.
Et heureusement que les bailleurs sociaux étaient là justement pour les promoteurs, parce que c'est quand même c'est grâce à eux que les promoteurs ont pu maintenir le cap. Vous avez évoqué le LLI, alors c'est le logement locatif intermédiaire. Est-ce vous pouvez nous parler de cette solution de logement abordable?
Alors, le logement locatif intermédiaire, c'est un logement qui est en termes et de capacité de ressources et de niveau de loyer entre le marché privé, souvent décoté d'ailleurs dans nos organismes du marché privé, et au-dessus de la zone la plus, enfin du tarif le plus élevé dans le logement social qui est le PLS aujourd'hui. C'est une gamme qui est très intéressante pour nous. Pourquoi ? D'une part parce qu'elle permet aussi, en fait, comme vous l'avez dit, on a de plus en plus de demandeurs et de moins en moins de taux de rotation. Ce qui est vrai, c'est qu'on fait face depuis le Covid en dehors de la crise immobilière, mais qui l'accentue au fait que les gens restent dans leur logement, certainement parce qu'ils en ont pu mesurer en tout cas la protection. Et donc, la colonne intermédiaire, elle a pour but de permettre de sortir du logement social tout en étant dans un parc qui est encore à un prix maîtrisé pour les ménages. On a une différence, c'est qu'on a une TVA à 10%, donc on n'est plus, on n'est plus en logement social et c'est légitime. Mais pour nous, c'est aussi une façon de répondre beaucoup à du logement de jeunes cadres, de jeunes familles qui ne trouvent pas, enfin qui n'ont pas les moyens
d'être dans le
sur les zones tendues sur lesquelles on les produit, d'être sur le privé. Ou de même d'accéder à la propriété aujourd'hui, du fait d'ailleurs des hausses de taux et autres, et qui finalement trouvent là, mais qui ne sont pas éligibles au logement social et qui trouvent un parc leur permettant de faire une partie de leur parcours résidentiel.
Alors, vous l'avez dit, le marché est totalement grippé. C'est vrai que la première raison, c'était la hausse fulgurante des taux qui a empêché un grand nombre de ménages de devenir propriétaires. Ça a bloqué tout le reste, parce que c'était les primo-accédants, c'est un peu la locomotive. De ce fait, les personnes restent dans leur logement. Il y a une explosion de demande de logement social. On sera quasiment à 3 millions, c'était les prévisions pour cette fin d'année, c'est ça?
Tout à fait, exactement. Ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, nous avons une explosion liée au fait qu'effectivement, beaucoup de gens cherchent un logement à prix accessible. Et par ailleurs, le fait qu'effectivement, comme je le dis toujours, on a toujours considéré qu'il faut à la fois produire plus, toujours, voilà, que la production est importante. Mais en même temps, ce qui est vrai, c'est que la première réponse logement pour un bailleur social, c'est son taux de relocation, de rotation. Donc, à partir du moment où on a moins de taux de rotation, ça veut dire qu'on met moins de logements sociaux sur les marchés, qu'on répond moins à la demande.
Et là, le taux de rotation, globalement, c'est un peu le même partout en France. On voit que c'est tendu partout, en fait, quasiment.
Alors, ce qui est vrai, et ça, c'est aussi une des révélations post-Covid, avant le Covid, on avait tendance, certains, à dire il y a des zones très tendues, donc genre l'Île-de-France, les grandes métropoles, la région PACA, où là, il y a un besoin et une décorrélation entre le niveau de demande et le niveau d'offre. Ce qui est toujours vrai. Ce qui est vrai, c'est que depuis le Covid, finalement, des zones dites historiquement plus détendues, où on avait des taux de rotation à 10-11%, ont considérablement chuté. Parce que effectivement, sur ces zones, il y a moins d'accès à la propriété, il y a moins de capacité de sortie, ou il y a le fait que les gens s'inquiètent. C'était d'ailleurs une des remarques qu'on a pu faire dans les commissions qu'on a travaillées, c'est qu'en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, quelqu'un qui bénéficie d'un logement social, compte tenu du temps qu'il a mis à l'avoir et de cette liste d'attente qui ne cesse de croître, a plutôt une tendance à dire « je préfère rester plutôt que de prendre le risque en cas de problème pour moi de ne plus pouvoir avoir cette protection ».
Globalement, le temps d'attente d'un logement social aujourd'hui,
ça dépend complètement des zones. Vraiment, il y a des zones où le temps d'attente peut se faire dans l'année, dans les deux ans. Et bien évidemment, en Île-de-France, par contre, c'est un temps d'attente très, très long.
Alors, on va parler du nerf de la guerre, le financement. Les ESH financent massivement leurs opérations via l'épargne réglementée, notamment le livret A. Bon, on l'a vu, il y a eu une hausse brutale du taux du livret A. Bon, il est redescendu un petit peu depuis. Mais ça a pesé extrêmement lourd sur vos équilibres financiers avec un surcoût estimé à plusieurs milliards d'euros pour l'ensemble du secteur HLM. Comment cette hausse du coût de l'argent s'est-elle traduite dans vos plans justement de construction et de réhabilitation ?
Elle se traduit mécaniquement par une hausse du coût de notre dette. C'est assez classique. Maintenant, pour les ESH qui ont continué à énormément investir en neuf comme en réhabilitation, ça s'est traduit par presque la multiplication par 6 du coût de la dette du fait de cette montée très très forte et très rapide du livret A. Ce qui est vrai, c'est qu'historiquement, on avait une protection contre ce type de choses qui était qu'on n'avait pas le droit d'augmenter le livret A de plus de 0,5 par semestre, ce qui n'a pas été le cas. Ouais. Heureusement pour nous, et il faut le reconnaître quand même, le gouvernement, comprenant l'impact de cette dette, a quand même à un moment donné bloqué, ce qui est toujours une des décisions complexes, le livret A, parce que c'est à la fois de l'épargne populaire et c'est aussi de l'épargne dédiée au logement social faire une offre pour les gens qui ont besoin d'être logés. Donc, c'est une équation complexe. Ouais. Malgré tout, ce qui est vrai, c'est qu'on a bénéficié cette année d'une baisse. On espère qu'il va encore un peu baisser puisque l'inflation baisse. Et parce que, effectivement, dans nos comptes et surtout dans notre capacité de réinvestissement, arriver à tenir le thermomètre de notre dette est indispensable.
C'est vrai que c'est le placement préféré des Français qui ne, pour la plupart, savent pas que ça vous impacte directement, qui finance le logement social. D'ailleurs, on devrait faire un petit peu plus de pédagogie là-dessus. On va parler de la relation avec les maires. Bon, on est au congrès, au salon, pardon, des maires et des collectivités. Alors, la chaîne de production du logement, elle se joue d'abord localement. On le sait, dans la relation entre vous, les bailleurs sociaux, les élus. D'après votre expérience quotidienne, quels sont les trois points de friction les plus fréquents que vous rencontrez avec les collectivités le plus fréquemment, aujourd'hui ?
J'aurais tendance à dire qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on est un peu obligé, et ça, c'est pour ça qu'il faut une relation de confiance et de long terme aussi, et de dialogue. Ça, c'est indispensable pour établir la relation avec les maires et avec les territoires. Parce que ce qui est vrai aussi, c'est que derrière le logement social, il peut y avoir des représentations, pour certains très positives, pour certains plutôt négatives, voire même de fausses images qui sont véhiculées, à la fois sur qui on va loger, etc. Donc il y a absolument besoin. Et donc ces fausses représentations, elles peuvent aboutir au fait que le maire peut être quelque part pris en difficulté pour expliquer à ses habitants que finalement il fait du logement. Et du logement social, alors que parce qu'on a des propres représentations, ce qui fait que je pense que les bailleurs essayent d'établir beaucoup de dialogue en amont. On essaye aussi de concrétiser en fait qui on va loger, parce que finalement quand on dit on va faire du logement social, on va loger la caissière du supermarché qui est à votre main, votre institutrice, l'infirmière de l'hôpital, etc., etc. Et voilà. Donc je pense que ce qui est vrai, c'est qu'on fait face à des représentations. Je pense que la deuxième difficulté aujourd'hui qu'on a dans le dialogue, c'est aussi le choix entre, d'un côté, le climat, la nature, la biodiversité, le ZAN, et le fait de construire et de loger des gens. Et ça, c'est une équation qui est compliquée à gérer. Et puis après, je pense que le sujet pour un maire aussi, c'est que finalement, quand vous construisez avant, vous pouviez dire assez légitimement que finalement vous alliez avoir de la taxe d'habitation en plus, que vous pourriez avoir plus de services, etc., etc. Donc que vous garantissiez votre école, etc., etc. Aujourd'hui, finalement, ce que nous disent les maires, et on les comprend, c'est que finalement avec la perte de ce levier de la taxe d'habitation, c'est beaucoup plus difficile d'exprimer que vous allez avoir un bénéfice à faire plus de logements, parce qu'au contraire, vous allez assumer des investissements collectifs importants en termes de services, écoles, crèches, etc., qui finalement qui vont vous coûter à vous, alors que celui d'à côté qui n'aura rien fait n'aura pas ce coût. Et donc ça veut dire que quelque part, vos contribuables financent, d'où d'ailleurs tous les débats qu'il y a pu y avoir depuis sur les résidences secondaires, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est normal qu'ils ne payent pas, qu'ils payent, etc., etc. Donc je pense que ce qui est vrai pour un maire aujourd'hui, c'est que l'acte de construire est un acte qui a toujours été un acte très engagé, qui nécessite aussi une vraie vision de sa ville. Parfois, on a une vraie vision de sa projection dans le temps et d'en discuter avec ses habitants. Voilà, ça fait beaucoup d'équations et on essaye, en tant que bailleur en tout cas, d'être le plus en amont possible. Nous, par exemple, chez Immobilier 3F, on a développé ces dernières années sur des communes, par exemple dans le 95, qui étaient dans l'agglo, qui étaient vraiment des communes quasi, presque quasi rurales pour l'Île-de-France, en tout cas, qui étaient dans l'agglo, mais qui se retrouvaient dans l'agglo de Roissy, donc soumis à la loi SRU, tout un programme d'accompagnement, de programmation, pour essayer de les accompagner aussi dans le débat avec les habitants, pour faire comprendre pourquoi on va faire du logement, pourquoi qui on va loger, quels services on va devoir agréer, etc., etc.
Donc beaucoup de communication, beaucoup de pédagogie en amont, avant les projets, beaucoup de discussions. C'était intéressant ce que vous disiez, très intéressant sur la taxe d'habitation. Vous mesurez, est-ce que vous avez pu mesurer justement depuis sa suppression des difficultés qui augmentent, enfin, en tout cas des réticences supplémentaires de la part des maires? C'est vraiment concret, c'est palpable?
Et donc je pense que ce qui est palpable chez les maires, c'est qu'effectivement la suppression de la taxe d'habitation a réduit considérablement leur capacité de financement. Oui. Voilà, et que ça pose à ce moment-là des débats. Et en sens inverse, je dirais que chez les citoyens, la suppression d'un impôt est assez rapidement oubliée.
Oui, c'est vrai. Rapidement, au contraire, est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'un maire peut faire immédiatement dès aujourd'hui pour au contraire accélérer un projet ESH sur sa commune?
Qu'est-ce qu'il peut faire déjà donner un permis, avoir un PLU et un PLH qui soit engagé pour le logement, essayer de convier les bailleurs, parce que c'est souvent ce qu'ils font aujourd'hui, à des réunions publiques, avoir un programme qui donne une ambition de développement, ça c'est certain. Nous on a fait l'année dernière, puisqu'on était en année pré-municipale en 2025 quelque part, on avait décidé que nos rencontres, on fait une rencontre tous les mois de janvier, seraient consacrées justement à comment rapprocher le maire de l'acte de construire. Et depuis, on a travaillé, on a lancé un sondage sur un certain nombre de maires, avec un institut de sondage tout à fait reconnu de place. Et on a été extrêmement étonnés de la réponse à ce sondage. C'est-à-dire qu'on peut, parfois, en tant que bailleur, on se dit, mais finalement, les maires, ils veulent pas tellement, ils ont pas envie, ils préfèrent rester, et les habitants aussi préfèrent rester parfois entre eux et se dire que tout va bien. Et en fait, on a plutôt eu dans ce sondage, au contraire, énormément de maires qui disent que le logement est leur première préoccupation, la première préoccupation de ce que... En fait, ce qui est vrai, c'est qu'il y a quelques années, on venait à la mairie sur des sujets d'emploi, d'aide sociale, etc.
Aujourd'hui, c'est le logement.
Aujourd'hui, on vient sur le logement. Et plutôt des maires qui étaient favorables à faire du logement, y compris du logement social, et à développer leur territoire. Donc ça, c'est une vraie belle perspective pour les bailleurs.
Dernière question. Alors, c'est vrai qu'on observe de plus en plus d'opérations mixtes avec des montages qui associent, donc, par exemple, Action Logement, la Caisse des dépôts, des investisseurs privés, des collectivités. Le pacte logement intermédiaire associe d'ailleurs directement votre fédération. Quel montage fonctionne le mieux aujourd'hui pour sécuriser justement l'équation économique et réellement sortir, parce que le but c'est ça, hein, c'est réellement sortir des opérations de terre.
Alors, le logement social en lui-même, il est vraiment encore très monoproduit, financement Caisse des dépôts, financement Action Logement, et on a plus de sujets, nous. Ce n'est pas tellement dans le montage de la recherche du financeur que dans le montage de l'opération en tant que telle. C'est-à-dire que c'est pour ça aussi qu'on fait du logement très social dans nos opérations, mais qu'on a une petite tendance à aller chercher du loyer en plus du côté intermédiaire. C'est plutôt ça que font les bailleurs. Sur le sujet intermédiaire, mais comme d'ailleurs l'Europe le propose sur le logement abordable, ce qui est vrai, c'est qu'on n'a jamais été jusqu'à se demander comment arriver à avoir des cofinancements. Sauf quelque part avec un petit début, je dirais ultramarin, avec le fameux crédit d'impôt ou la défisc, etc., etc. C'est une vraie question, une question qui est intéressante et sur laquelle on travaille beaucoup à la Fédération, notamment Pierre-François Guffès et les équipes de la Fédé, parce que le logement abordable qui est prôné au niveau européen est un logement abordable qui comprend le logement et le service et qui comprend aussi l'obligation du cofinancement public-privé. Et ça, on pense qu'en tout cas, pour réamorcer une pompe et maintenir même pour nous le niveau de production, aller chercher effectivement des nouveaux montages de cofinancement privé sont importants.
Pour finir, un message, si vous avez un message à faire passer aux maires, on en profite, on est au Salon des maires et des collectivités, ce serait quoi ?
C'est un message simple qui est celui de la confiance mutuelle et du fait qu'on sera là le 27 mars pour travailler avec eux.
Et un grand rendez-vous juste avant, en janvier, le 28 janvier, les rencontres des ESH, 3e édition.
Exactement, 3e édition, cette fois-ci placée sous le signe des transitions. Comment faire face aux transitions démographiques, écologiques, économiques, sociales qui traversent notre société, pas toujours positivement. Et on va essayer de toujours travailler en atelier pour essayer de trouver des propositions effectives face à cette question des transitions.
Oui, avec des ateliers, les personnalités importantes du secteur et pas que, des maires, des élus. Merci beaucoup Valérie Fournier d'avoir été présente sur notre plateau. On se retrouve dans quelques instants, toujours en direct du Salon des maires et des collectivités locales. On vous fait vivre cet événement en direct de la Porte de Versailles sur nos antennes. À tout de suite.
Le Salon des maires et des collectivités locales du 18 au 20 novembre 2025 à Paris Expo Porte de Versailles en partenariat avec Procivis et IDPRO sur Radio Immo et Radio Territoria.